du jour avec le Père Willem.
Trouver son identité profonde. Nous vivons dans un temps où la quête d'identité est à la fois exacerbée et embourbée dans des voies souvent mortifères. La conception moderne d'une identité forte est associée à l'image de l'individu émancipé, autonome, libéré des dépendances qui empêchent d'être soi-même. L'appartenance subie à une communauté, les préjugés d'un milieu, l'englument dans des liens que l'on ose briser, l'enfermement dans un carcan de principes interdisant d'être authentique, de se réaliser, échappant à la pression du troupeau, un tel individu et son propre maître conduit souverainement son existence. Il est à la remorque de personne, d'un besoin vital de personne. Cette vision d'une identité digne de ce nom sous-tend de nombreux aspects de la vie sociale. L'éclosion des démarches de développement personnel, le refus des identités assignées, homme ou femme, héritier d'une religion, d'une nationalité, d'une position sociale reçue de ses pairs, la propension à exiger de ses semblables, en s'appuyant sur ses droits, non à attendre de leur bienveillance, ni Dieu ni maître. Alors, à l'usage, loin de conduire à des identités heureuses, cette prétention à une sorte de souveraineté identitaire conduit à une impasse. Échapper à l'englument dans un ordre traditionnel, avec ses identités assignées, ne libère nullement du regard social. C'est sous ce regard que l'identité se construit. Qui suis-je pour ceux que je rencontre? Suis-je intéressant, désiré? Est-on fier de me compter parmi ses relations, ses amis? Parle-t-on aux autres des liens que l'on entretient avec moi pour montrer que l'on est quelqu'un? Ou bien suis-je si peu intéressant que l'on invitera ma compagnie et qu'on fera semblant de ne pas me connaître? Je peux choisir, certes, ceux à qui je m'intéresse, mais les autres peuvent choisir tout autant et donc décider de ne me compter pour rien. Même si, à un moment donné, le succès est là et je suis adulé, je sais bien qu'il n'en restera pas grand-chose si le vent tourne. Dans ce contexte, il est difficile d'échapper à une identité précaire, inquiète, marquée par un souci frénétique chez certains, des apparences de la place occupée dans les réseaux sociaux. Une identité de pacotille. Un moyen d'échapper à cette forme d'identité inquiète est d'opter pour une identité postmoderne, fluctuante, labile, faite de pièces et de morceaux, en espérant qu'on pourra en toutes circonstances se raccrocher à l'un d'eux. On peut aussi s'immerger dans un sentiment océanique associé à une appartenance à un grand tout, où on peut se tourner vers des formes dures d'identité liées à l'adhésion corps et âme à une communauté fermée à la manière des islamistes. Il importe donc d'échapper à ces perspectives peu exaltantes. Pour cela, nous allons puiser à pleine main dans le trésor des écrits des mystiques et des penseurs chrétiens. Ces auteurs ne sont pas moins conscients que les modernes de ce que peuvent avoir d'aliénant les formes traditionnelles d'identité associées à un enfermement des unes dans une communauté et aux préjugés portés par celles-ci. Mais, contrairement à eux, ils n'ont pas le culte de l'individu prétendu autonome. C'est dans une vie inspirée par l'Évangile, dans un amour reçu et donné entre frères, dans une confiance en Dieu qui nous aime, que nous disent ces auteurs, chacun peut accéder à une vie pleine. Dans une telle vie, l'angoisse de n'être rien, ou du moins pas à la hauteur, s'éloigne et avec elle le désir frénétique de s'affirmer. Le fait que l'on existe ne fait plus question. Certes, on ne commande pas ce que l'on reçoit, on se contente de l'accueillir, de le goûter, mais l'on reçoit au-delà de ce que l'on aurait imaginé pouvoir conquérir ou exiger. Si nous acceptons de dépendre d'autrui, de Dieu, dont on attend qu'il nous donne, cela libère d'autres dépendances, et d'abord de celle d'un regard social qui n'a plus de considération que pour l'effort. Nous découvrons que nous possédons un trésor que nul cambrioleur ne peut nous ôter. Une telle vie offre à chacun l'accès à son identité profonde. L'expérience des saints, comme celle de grands artistes, est que même en se dépouillant des faux-semblants, des identités d'emprunt qui permettent de briller tels des bijoux de pacotille, on ne se réduit nullement à une sorte d'humain indifférencié, mais on se découvre comme être éminemment singulier. Saint François, le pauvre d'Assise, n'est pas Dominique, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'est pas Thérèse d'Avila, comme Rembrandt n'est pas Giotto. Ce n'est pas seulement que chacun appartient à une époque, tributaire d'une culture, mais de ce qu'il vit de plus authentique. Chacun a une manière propre d'exister qui dépasse la conscience qu'il existe, oui, une vocation singulière qui ne doit rien au conformisme social dans le regard de ceux dont il accepte d'être aimé en vérité. Il se découvre une personne unique dans le regard de Dieu qui aime les humbles, les pécheurs. Il peut accéder à un regard de vérité sur lui-même sans que le désespoir devant sa manière d'être, devant sa misère, l'empêche de reconnaître la lumière propre dont il est porteur. C'est dans l'abandon à Dieu que chacun a accès, dans les pas de Saint Augustin, au plus intime de soi-même.